Alors, un petit résumé sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est la quatrième rencontre, je crois. Première fois qu'on s'est vu, on a réfléchi sur l'espérance. On a essayé donc d'en comprendre la structure, vous vous souvenez, pour espérer. Trois mots-clés, il faut avoir un désir, puisque l'espérance porte sur un bien futur. Il faut avoir la confiance, puisque l'espérance porte sur un bien qu'on considère comme possible à obtenir. Et puis, il faut avoir de la combativité, puisque ce bien possible à obtenir, il ne va pas non plus me tomber dans la bouche tout seul. Il va falloir y aller. Et donc, ça va impliquer donc la confiance, désir, l'espérance, désir, confiance et combativité. Donc ça, c'était premier soir, la structure de l'espérance. Ensuite, on a vu comment Jésus, à travers les épisodes de la résurrection, va aller chercher chacun des disciples dans son désespoir, dans sa forme particulière de désespoir, pour le ramener à l'espérance. Alors, on a vu d'abord Jean, le disciple que Jésus aimait, qui doit être totalement désorienté. Il fait encore nuit, il arrive au tombeau, il vit et il crut. Changement total de perspective, retournement intérieur qui passe par un changement de regard, et tout d'un coup, il a la foi. Donc lui, c'est vraiment le passage, sa forme de désespoir, ici, c'est les ténèbres, et il passe des ténèbres à la lumière. Après, on a vu la dernière fois Marie-Madeleine. Elle aussi, elle est dans les ténèbres. On nous dit qu'il fait encore nuit quand elle vient au tombeau. Donc elle est, elle aussi dans l'obscurité. Mais on a l'impression que son obscurité vient surtout, la note dominante, c'est sa tristesse. Elle est comme aveuglée par sa tristesse. Ça peut arriver que la tristesse, une tristesse très forte, nous aveugle et on ne voit plus du tout ce qu'il peut y avoir de beau dans le monde, ce qu'il peut y avoir de source d'espérance, parce que la tristesse nous replie totalement sur nous-mêmes. Alors là, on a l'impression que c'est le cas de Marie-Madeleine et on a vu que Jésus vient la sortir de sa tristesse pour la ramener à la joie en l'appelant Marie. Il la réappelle et elle entendit et elle crut. Elle, c'est vraiment par l'audition qu'elle est entrée dans le mystère de la résurrection. Jean, c'est par la vision. Thomas, ça sera par le toucher. Avance ton doigt. Oui, il y a aussi quelque chose d'intéressant du point de vue des sens externes ici. Alors ce soir, on va regarder un autre obstacle à l'espérance, peut-être le contraire de l'espérance d'une certaine façon, la peur. Pourquoi le contraire de l'espérance? Parce que l'espérance, elle porte sur un bien futur, alors que la peur, elle porte sur un mal futur. Donc c'est vraiment si c'est un bien futur qui se profile, vous êtes dans le désir et l'espérance. Si c'est un mal futur qui se profile, un mal imminent et capable de vous détruire, alors vous êtes effrayé, vous êtes dans la peur. Et là, on pourrait aussi prendre tous les synonymes, hein, toutes les expressions, avoir les pétoches, j'ai peur, je crains, je suis effrayé. Il y a aussi, de même que pour la joie, on a toute une palette de mots en français. Pour la peur aussi, c'est extraordinaire. Le nombre de mots, même d'expressions plus ou moins argotiques qu'on a, pour dire qu'on a peur. Dans la Bible, la première apparition de la peur, ben c'est tout de suite après le péché, en fait. On voit que la peur est une conséquence immédiate du péché originel. Adam et Ève se mettent à avoir peur de Dieu. Et pourquoi ils ont peur de Dieu? Parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ne connaissaient pas ça avant. Désormais, Dieu leur avait dit, si tu manges du fruit, tu mourras. Et donc, quand ils entendent le pas de Dieu dans le jardin, ils imaginent le pire. Et Adam dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc là, on a vraiment ici peur de Dieu, la première peur qui apparaît dans la Bible, comme si Dieu était celui qui va me mettre à mort. Mais aussi peur fondamentale, peur de la mort. C'est peut-être la source de toutes les peurs. Et alors, on a tous des peurs en nous, mais parfois, certains développent même, au point de vue psychologique, des phobies. Alors, vous avez peut-être des phobies comme ça. C'est quand la peur devient un petit peu maladive. Et alors, il y en a des dizaines de phobies, hein. Donc, on en a bien une ou l'autre. Il y a plus de 300 phobies, je crois. J'ai regardé un petit peu quelques noms comme ça. Vous avez peut-être, parmi vous, on a peut-être des arachnophobes. Hein, vous avez la peur maladive des araignées. Ma maman était comme ça. Alors comme ça, je lui mettais des photos d'araignées dans son lit. Ça m'amusait beaucoup. Pas sympa. Mais j'ai changé, hein, je me suis converti après. Vous avez l'acrophobie, l'acrobranche, mais c'est le vertige, l'acrophobie, c'est la peur des hauteurs, tout simplement, l'acropole, la ville qui est en haut. Hein. Vous avez la cynophobie, ah, c'est la peur des chiens, ça peut arriver, peur maladive des chiens. Vous avez été mordu quand vous étiez petit, puis voilà. Vous avez l'ophidiophobie, ça c'est plus normal à mon avis, c'est la peur des serpents. Mais bon, ça peut être maladif, autre chose est d'avoir peur des serpents parce qu'ils sont dangereux, autre chose, et même si j'en vois un loin, je ne peux pas supporter ça. Ah, celle-là, j'espère que vous ne l'avez pas, c'est embêtant, la dentophobie. La peur des dentistes, elle existe, hein, j'ai trouvé ça dans un... ou la peur des soins dentaires, alors c'est embêtant ça, c'est... Ah, la claustrophobie, ça, beaucoup loin, hein. Je suis sûr qu'il y a quelques claustros parmi vous. J'espère qu'il n'y a pas trop d'agoraphobes. L'agoraphobie, donc, c'est la peur des foules. Hein. Normalement, il n'y en a pas ici, parce que souvent, c'est des gens qui, justement, n'aiment pas du tout se retrouver avec d'autres, parce que ça les étouffe. Vous avez, par exemple, la thanatophobie. Alors, elle est assez naturelle, celle-là, mais elle peut être vraiment phobique. La thanatophobie, thanatos, c'est la mort. Donc, c'est la phobie de la mort. Et puis, il y en a une, j'espère que vous ne l'avez pas, l'homilphobia. C'est la peur des homélies. Donc, je l'ai trouvé. Je ne savais même pas que c'était possible. Ben, si, il y en a. Ils en développent une phobie. Donc, je pense que c'est les anciens séminaristes ou je ne sais pas. En tout cas, on n'aime pas tous se l'avouer, mais on a tous en nous des peurs depuis le péché originel, donc ce n'est pas étonnant. Plus ou moins enfouies. Je crois que c'est Jules Renard qui disait, il y a deux types d'hommes, ceux qui regardent sous leur lit pour voir s'il n'y a pas un voleur avant de se coucher, et ceux qui n'osent même pas regarder sous leur lit. Donc de toute façon, on ne va pas y échapper. D'une façon ou d'une autre, ben, on a peur de l'échec. On a peur de manquer. On a peur qu'on nous fasse du mal. On a peur d'être trahi. On peut avoir peur de se fatiguer, ça s'appelle la paresse. Peur de se mettre en colère. Si vous êtes colérique, vous dites, j'espère que je ne vais pas encore exploser ce soir, je vais tous les massacrer, retenez-moi. J'ai peur de moi-même, parfois. On a peur d'être humilié en public, on a peur de ne pas assurer, on a peur du regard des autres. Enfin, c'est fou, hein, comme nous sommes des peureux, en fait. On est hantés par une forme de peur ou par une autre. Alors, il y en a, ils sont contraphobiques, on dit, lui, il a peur de rien. Mais je ne crois pas non plus. La contraphobie, c'est que j'ai peur d'avoir peur. Donc je fais du sport extrême pour me prouver que je ne suis pas un peu heureux. Mais t'as quoi à prouver ? T'as tellement peur de si tout d'un coup tu découvrais que t'es peureux comme tout le monde ? Alors il y en a, ils jouent au gros dur, mais en fait c'est pour cacher, c'est une autre manière de gérer leur peur. Je crois qu'on n'y échappe pas. Hein. Donc c'est cette peur qui habitait les disciples au soir de la résurrection, en tout cas, et c'est ça qui nous est révélé. On va lire ce passage, c'est l'apparition de Jésus aux 10. Alors, Thomas n'est pas là et Judas n'est plus là. Donc, ils sont 10 au lieu d'être 12. Et Jésus va les rencontrer. Alors, c'est dans l'évangile de Jean, c'est la deuxième apparition de Jésus. Il apparaît d'abord à Marie-Hélène, puis ensuite aux 10. Jean, au tombeau, ce n'est pas vraiment une apparition. Hein. Il n'est pas là, justement, et Jean croit alors que Jésus n'est même pas apparu à Jean. Donc, c'est la deuxième apparition. Si vous prenez Marc et Matthieu, c'est la troisième, parce qu'ils intercalent l'épisode au pèlerin d'Emmaüs. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que c'est la première à l'Église. Les 10 réunis ensemble, c'est l'Église. L'Église naissante, l'Église à peine née, elle est réunie là, et elle est unifiée, non pas par la foi, mais par la peur. Je trouve ça très impressionnant qu'au tout début de son histoire, les disciples de Jésus n'ont pas été unis d'abord par la foi, puisqu'à ce moment-là, ils ne croyaient plus, mais ils sont mis ensemble, unis par la peur. Leur point commun ici, c'est qu'ils pètent tous de trouille. Le soir même de ce même jour, le premier de la semaine, donc dimanche, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors on va regarder en détail ce texte pour comprendre comment Jésus nous fait passer de la peur à la paix. Alors, première chose qui nous est dit le soir même de ce jour. Alors là, vous êtes habitués maintenant, dès que c'est le soir, tout ça, symbole de l'obscurité. Donc on insiste sur le fait à nouveau qu'ils sont dans la non-connaissance, ils sont dans les ténèbres. Mais alors que Marie-Madeleine, ces ténèbres venaient surtout de la tristesse, ici, ils semblent venir de la peur. La peur aussi nous aveugle. C'est pour ça qu'on dit que la peur est mauvaise conseillère. Si on est totalement dans la peur, on peut être aveuglé, on ne voit plus ce qu'il faut faire. Ici, comme il fait nuit et qu'ils ont peur, on pourrait parler de la peur du noir. Vous savez, chez les enfants, ils ont peur qu'on éteigne la lumière. On leur laisse une petite lampe de chevet, comme ça, parce que... Pourquoi on a peur du noir? Pourquoi on a tous plus ou moins eu peur du noir quand on était petit? Je pense que le noir, c'est l'obscurité, c'est quand l'imaginaire aussi est facilité par l'obscurité, je pense, parce qu'on n'a pas d'objets sur lesquels on se fixe. Il y a certainement aussi le fait que dans le noir, on n'a pas le contrôle. On ne voit pas où est-ce qu'il faut aller, on ne sait pas se diriger dans le noir. Et puis pour l'enfant, je pense que le noir, c'est aussi symbole de la séparation avec les parents. C'est le moment où ils vont se coucher aussi, au moment où il n'est plus avec eux. Et donc, il y a la peur de la séparation. Et ben, si vous regardez ça, j'ai l'impression que ces disciples, ils vivent la même chose. Ils ont une sorte de peur de la séparation. Ils ne contrôlent plus la situation. Ils n'y voient plus rien, en fait. Et donc, ils sont repliés. Alors, où sont-ils, d'ailleurs? Ça ne nous est pas dit, curieusement. Le soir de ce même jour, alors on précise le jour, le premier de la semaine, jour de la résurrection, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples. On ne sait pas où. Là où. Comme si, finalement, ça, ce n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est que les portes sont closes. Par peur des Juifs. Ils ont peur des Juifs sans doute parce qu'ils craignent qu'on leur reproche d'avoir volé le corps de Jésus, puisque tous les Juifs cherchent à ce moment-là où est le corps. Ils pensent que là, on va penser que c'est eux qui l'ont pris. Donc ils ont peur des Juifs, mais ils sont en fait enfermés. Donc où ça? Dans leur peur. C'est pour ça que le lieu n'est même pas précisé. Là où ils étaient enfermés, posez-vous la question, où est-ce que moi je suis enfermé? Où est-ce que moi je suis claquemuré à cause de mes peurs? En tout cas, il n'y a pas de trace ici de la joie de Marie-Madeleine qui dit Rabouni, qui est toute heureuse. Là, ils sont encore avant la joie, ils sont totalement recroquevillés sur leurs peurs. Et alors le texte nous dit, Jésus, le soir même de ce jour, le premier de la semaine et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu. Et là, c'est très précis. En grec, on ne nous dit pas « il se tient au milieu de la pièce ». Parfois, on traduit comme ça « il se tient au milieu d'eux ». Non, ce n'est pas dit en grec. Il est dit « il vient, il se tient au milieu ». Au milieu de quoi? Eh bien, au milieu de leur peur. C'est ça qui est intéressant. Là où ils sont claquemurés, là se tient le Christ. Là où j'ai peur, là le Christ vient me rejoindre. Donc, ce n'est pas d'abord un lieu physique, c'est un lieu intérieur. Parce qu'on pourrait se demander, mais comment il a fait pour traverser les murs là? Il n'a pas frappé à la porte? Alors, ça, on ne sait pas trop. Hein. Il a un corps glorieux dont les propriétés sont bizarres. Nous, on ne fait pas ça. C'est très impoli d'entrer dans une maison comme ça. Donc, par politesse, on ne le fait pas. Jésus, donc, lui, il se tient, il arrive au milieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, au fond, ça n'a aucun intérêt de savoir comment il a fait. Bon, ça peut intéresser quelques théologiens pour comprendre les propriétés du corps glorieux du Christ. Mais ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est qu'il vient de l'intérieur. Désormais, il vient me rencontrer dans ma vie intérieure. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il est à l'intérieur de ma peur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Shalom ».« Shalom aleichem », »,« La paix soit avec vous ». Donc c'est impressionnant que ce soit la première parole du Christ ressuscité pour son Église. Quelle est la vocation de l'Église ? Il faut peut-être revenir à cette parole. L'Église, elle doit d'abord être en paix. Elle doit d'abord être un lieu de paix, un lieu pacifiant pour les autres. Puisque la première parole du Christ à son Église, c'est « Shalom ». Donc Jésus ne vient pas annoncer une nouvelle doctrine, il a assez parlé pendant 3 ans à ses disciples, il ne vient pas dire quelque chose qu'il n'avait pas dit auparavant, « Oups, au fait, j'avais oublié de vous dire, les gars ». Non, il vient mettre la paix au cœur de son Église. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Bossuet dit à ce moment-là que Jésus est comme un ambassadeur de paix. Puisqu'il vient annoncer la paix, eh bien, il est comme un ambassadeur qui monte le traité de paix. Sauf que là, le traité de paix, il est inscrit dans la paume de ses mains, il est inscrit dans la blessure de son cœur. Comme dit l'Ancien Testament, « J'ai inscrit ton nom dans la paume de mes mains ». Donc il leur montre, je peux dire « Shalom » parce que j'ai payé le prix. Il y a un véritable traité de paix entre Dieu et nous, parce que le Christ est blessé. Mahatma Gandhi avait une image de Jésus dans sa chambre, avec une citation de Saint Paul sous l'image, Saint Paul 2, 14 aux Éphésiens, quand il dit « C'est lui notre paix ». Donc c'est beau de penser que Gandhi avait ça, une image de Jésus, « C'est lui notre paix ». Il est notre paix. La paix, ce n'est pas quelque chose pour nous, c'est quelqu'un. C'est pour ça que c'est dans la rencontre avec Jésus, en fait, qu'on a le secret de la paix. Alors les disciples, ils réagissent avec joie. Et c'est beau d'imaginer Jésus joyeux. Vous voyez, on l'avait un petit peu évoqué la semaine dernière. Jésus vient les rencontrer avec joie. Il aurait pu venir pour les réprimander sévèrement. Après tout, vous avez qui en face de lui ? Vous avez Pierre, qui l'a renié 3 fois. Vous avez les autres, ils sont barrés quand ils devaient être là. Thomas, il n'est même pas là. Donc, on aurait pu imaginer que Jésus arrive, puis sévèrement leur dire « Bon, j'ai 2-3 trucs à vous dire, les gars, ça ne va pas du tout. C'est très mal commencé, notre église, là. » Donc, non, il arrive et ils sont fous de joie. Ben, ils sont fous de joie pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est ressuscité, puis ensuite parce qu'il ne les gronde pas. Il n'est pas en colère contre nous, voilà aussi une bonne nouvelle. On aurait pu imaginer qu'il arrive et puis qu'il soit super en colère. Non, il leur dit « Shalom, la paix ». Ah, il y a de quoi être surpris. Vous vous rappelez cette religieuse dont je vous parlais la dernière fois, qui, au moment de mourir, dit « Comme le bon Dieu va être content de me voir ». Il faut une sacrée conversion intérieure, il faut être passé de la mort à la vie hein, pour être capable de dire « c'est comme ça que j'envisage ma relation avec Dieu ». Là, il y a un changement de regard. Alors Jésus fait voir à ses disciples ses mains et son côté. Le verbe en grec, c'est « deiknoumi », qui veut dire « faire voir », mais d'une sorte de regard intérieur. Ce n'est pas simplement un examen clinique. Regardez mes cicatrices. C'est un voir intérieur. Et d'ailleurs, ensuite, il dit « voyant le Seigneur, il se réjouir ». Donc, en fait, on ne dit pas « voyant la paume de ses mains » ou « voyant la blessure de son cœur ». Ce qu'il voit, c'est le Seigneur, en fait. Et la joie qu'ils éprouvent, c'est de le rencontrer à nouveau et de le rencontrer dans la paix. Alors, du coup, ils sortent de leur tombeau. Ils sortent, même si, je ne sais pas s'ils ont été ensuite ouvrir la porte, mais la porte de leur cœur, elle est ouverte. Qu'on avait dit la dernière fois que la tristesse contracte et la peur dilate, la joie dilate, la joie ouvre. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, ils retrouvent la joie, donc ils sont à nouveau ouverts intérieurement. Ça ne leur empêche pas d'être prudents, s'il faut rester dans la maison, ils vont rester dans la maison, mais plus de la même manière. Cette fois, ils ne sont plus enfermés dans leur peur, ils sont ouverts. Donc c'est ça en fait, c'est que Jésus vient les délivrer de leur emprisonnement. Jésus vient nous libérer de nos peurs. C'est une de ses grandes missions. Hein. Il est venu nous libérer de l'esclavage, de la peur. Il leur dit alors de nouveau, paix à vous. C'est vrai qu'il faut y revenir plusieurs fois. Hein. La paix, on la perd aussi facilement. Alors Jésus, deuxième fois, comme s'ils n'y croyaient pas. Shalom aleichem, paix à vous. Comme le Père m'a aimé, moi je vous envoie. Allez, tout de suite, à chaque fois, hein, comme à Marie-Madeleine, t'as retrouvé la joie ? Ok, maintenant je t'envoie vers mes frères. T'as retrouvé la paix ? Eh ben, puisque tu es en paix, va la donner aux autres. À chaque fois, vous avez ces deux aspects. Vous avez quelque chose pour nous et quelque chose qui, de nous, va aller aux autres. Et ça, c'est la manière à Jésus de nous ressusciter aussi. Non seulement je te relève, mais je fais de toi quelqu'un qui a une mission. Pensez à Saint-Pierre. Il va le pardonner, et puis ensuite, il lui dit « paix mes brebis ». Donc, tout de suite, il nous envoie. C'est jamais que sous une forme purement égotique, narcissique, où on se gargariserait de la paix. Jésus n'a pas dit « heureux les pacifiés », il a dit « heureux les pacifiques ». C'est bien d'être pacifié pour être pacifique. Mais en fait, je suis pacifié, super, maintenant il faut que je sois un pacifique, donc un faiseur de paix. Toujours ces deux dimensions, en fait, qu'on va observer dans les Écritures. Et alors, pour bien les envoyer, il souffla sur eux. Bizarre, ça. On fait ça au baptême, je crois. Est-ce qu'on souffle au baptême ? On le faisait avant. Je ne sais pas si dans le nouveau rituel, on le fait. Les exorcistes font ça. Dans le rituel des exorcistes, il y a un moment où on souffle. Alors, il faut s'être un petit peu brosser les doigts. Mais... là, il souffla sur eux. Enfusao. Ce verbe, en fait, n'arrive que deux fois dans l'Écriture. Ici et au moment de la création d'Adam. Vous vous souvenez ? Il prend la glaise, il insuffla une haleine de vie dans ses narines. C'est bizarre comme expression. Eh bien, Jean reprend en grec, puisque c'est en hébreu, mais il y a la Septante qui traduit l'hébreu en grec. Les Juifs eux-mêmes ont écrit la Septante en grec. Eh bien, c'est le même mot enfusao qui va être réutilisé ici par Jean. Donc, ce n'est pas anodin, ça. Ce n'est pas par hasard. C'est comme si vous voulez nous dire, à ce moment-là, il y a comme une nouvelle création. De même que Dieu a créé Adam, Jésus ressuscité renouvelle son Église. Il redonne vie à son Église. Je vous conseille de lire en parallèle, on ne va pas le faire parce que ça serait un peu long, mais Ézéchiel 37, c'est ce magnifique texte sur la vallée d'ossements. Ézéchiel se trouve face à une vallée d'ossements et l'Esprit lui dit « Est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre ?» C'est l'image d'Israël en exil, hein, ils sont tous à l'état de mort-vivant. Est-ce que tu penses que ces os peuvent revivre ? Et Ézéchiel répond « C'est toi qui le sais ». Et le Seigneur lui dit « Souffle sur l'Esprit, souffle avec l'Esprit sur ces os ». Et puis progressivement, c'est une grande armée qui se relève. Et en fait, c'est une prophétie d'Ézéchiel pour montrer que ce peuple pourra revivre. Donc, c'est un magnifique texte, hein, Ézéchiel 37. Là, le mot « recevez l'Esprit Saint », c'est intéressant parce que, littéralement, en grec, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le verbe « recevoir ». Nous disons, ce n'est pas le sens le plus fort du verbe « lambano » qui est utilisé ici, qui veut dire littéralement « prendre ». Alors, je comprends parce qu'on ne voit pas bien ce que ça pourrait dire « prenez l'Esprit Saint ». Mais en fait, c'est ça qui est dit. C'est un verbe plus actif. « Recevoir », c'est passif. Prendre l'Esprit Saint, c'est plus actif, je trouve. Et c'est ça qui est dit, c'est le même mot qui est employé. Par exemple, quand Jésus donne Marie à Jean, il dit « Voici ta mère ». Et on nous dit « Alors le disciple l'a pris chez lui ». C'est le même verbe, « lambano ».« Alors le disciple l'a pris chez lui ». Donc il y a quelque chose d'actif. J'accueille, mais activement. Vous voyez, je reçois Marie, mais je la prends en même temps chez moi. On pourrait peut-être imaginer que c'est le même mot, alors c'est dans une expression française, mais quand on dit d'un bateau qui prend le vent. Prenez l'esprit comme le bateau prend le vent. On ne dit pas quand les voiles flottent, on ne dit pas que le bateau est en train de prendre le vent, on dit il y a les voiles qui flottent. Là. Quand les voiles sont bien tendues et que le Zef arrive, alors à ce moment-là on dit « Ah, le bateau prend le vent ». Je trouve que c'est une très belle image pour comprendre notre rapport à l'Esprit-Saint. Jésus dit « Shalom, la paix soit avec vous, l'esprit de paix je vous l'envoie, je souffle même sur vous, maintenant à vous de prendre le vent. Il va falloir que vous ayez votre part pour chasser votre peur, pour vous ouvrir à la Pentecôte, parce que finalement chez saint Jean c'est là la Pentecôte. Nous on l'a fête 50 jours après, pour saint Jean résurrection et Pentecôte c'est le même mystère en fait. Il fait une sorte de contraction ici entre deux moments qui sont séparés par ailleurs, chez saint Luc, et là chez nous, dans saint Jean en tout cas, c'est le même mystère presque, c'est un seul acte disons. Jésus apparaît à ses disciples, leur donne la paix, souffle, c'est déjà la Pentecôte pour eux. Et il leur dit, voilà la mission, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. La résurrection est tout de suite liée au pardon. La paix soit avec vous, allez donner la paix aux autres, et le signe que vous allez leur donner la paix, c'est que vous allez leur donner le pardon de Dieu. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la miséricorde divine, vers le pardon de Dieu. Alors le Concile de Trente a vu ici le fondement du sacrement de la confession. Tout ce que vous remettrez sera remis, tout ce que vous retiendrez sera retenu. Donc le Concile y a vu ici l'acte fondateur du sacrement de la confession. Alors je voulais juste vous lire un passage à ce propos, les belles choses que dit Jésus qui a parlé à Sainte Faustine, et elle a rédigé dans son petit journal plusieurs choses qui sont liées aux apparitions de Jésus à Sainte Faustine, et notamment il y a un très beau passage sur la confession. Ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde, avec grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre. C'est moi seul qui agis dans l'âme. Dis aux âmes qu'à cette source de la miséricorde, elles ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Voilà, c'est pour nous encourager à aller nous confesser, hein, parce que c'est quand même pas drôle d'aller se confesser. Ça, c'est comme les hôpitaux, on n'aime pas y aller, mais on aime bien en sortir. Remettez les péchés. Le verbe est beau aussi, c'est aphiemi en grec, qui veut dire envoyer au loin. Remettre les péchés, c'est comme si je les prenais, puis je les envoie très loin. Comme dit le psaume 23, hein, comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Donc, toi tu vas à l'Est, moi je les envoie à l'Ouest, tes péchés. Donc ça, c'est un peu ça l'idée de remettre les péchés, envoyer-les de l'autre côté. On n'en parle plus. Cheval et cavalier les jettent à la mer, comme dit Moïse. Donc les disciples reçoivent du ressuscité le pouvoir de confesser, le pouvoir de remettre la vie en marche en fait. Puisque moi je viens de vous ressusciter, je vous ai sauvé de votre peur, et bien maintenant vous pouvez vous aussi remettre la vie en marche. Alors le thème c'était donc de la peur à la paix. Peut-être une dernière chose là-dessus. Ce passage de la peur à la paix qui pour eux était la peur de Dieu, la peur de Jésus même, la peur des Juifs. Intéressant de voir qu'elle était communautaire, faisons attention aux paniques collectives. Hein. Ça peut aboutir à des choses effrayantes. Quand vous avez une foule qui se met à avoir peur, c'est ce qui s'est passé au Rwanda, et on a vu le résultat. Quoi. Donc c'est terrible, hein, non seulement la foule et la peur est personnelle, mais qu'on arrive ensuite à la communiquer aux autres. Et donc ça, il faut faire bien attention. Le père Popielusko, qui était aumônier de Solidarnosc en Pologne dans les pires années, il disait « Le problème essentiel pour la libération de l'homme et de la nation est de surmonter la peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors il y a une vraie mission pour nous chrétiens de surmonter la peur et de ne pas être engendrer la peur tout le temps avec nos discours pessimistes, anxieux, etc. Oui, il faut être lucide, le monde ne va pas super bien, c'est clair. Mais ce n'est pas la peine d'en rajouter en plus par notre anxiété et nos paroles anxieuses tout le temps. Parce que là, on communique. Or, Jésus, manifestement, n'a pas voulu que son Église soit comme ça. Il n'a pas voulu que ce qui les unisse soit la peur, mais la paix. Alors, on peut avoir peur, le pape est malade. Qui va être le pape suivant? Oh là là, qu'est-ce que ça va être? Il va y avoir un conclave. Que devient l'Église? Tout fout le camp. Où va-nous? Donc à ce moment-là, effectivement, on peut se gargariser et entretenir une peur pas possible. À ce propos, sur l'Église, moi je suis assez serein parce que je pense à cette anecdote à l'époque napoléonienne. Vous avez un monseigneur un peu anxieux et agité qui était allé voir le cardinal Consalvi et qui lui a dit Votre éminence, la situation est très grave. Napoléon veut détruire l'Église. » Et le cardinal lui a répondu, « Nous, les cardinaux, ça fait 2000 ans et on n'est pas toujours parvenus, pas encore parvenus. » Donc, bon, ça, c'est une petite blague de curé. Alors, vous pourriez lire peut-être à table Marc 4, 35, 41. Je ne vais pas le lire là parce qu'il faut que je m'arrête. Mais c'est la tempête apaisée. C'est un autre texte magnifique pour voir comment Jésus lui-même est pacifié puisqu'il dort au milieu de la tempête. Et ensuite, il est pacifique puisque d'un mot, il dit à la tempête, « Muselle-toi » et la tempête s'arrête. Je terminerai simplement avec notre bon pape François, justement, qui parlait de cet épisode en disant « Confions-lui nos peurs pour qu'il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l'expérience qu'avec lui à bord, on ne fait pas de naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Nous avons une ancre. Par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail. Par sa croix, nous avons été rachetés. Nous avons une espérance. Par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés, afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Il est ressuscité et vit à nos côtés. Seigneur, bénis le monde, donne la santé au corps et le réconfort au cœur. Tu nous demandes de ne pas avoir peur, mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête. Redis encore, n'ayez pas peur. Et nous, avec Pierre, nous nous déchargerons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous. » Alors la grâce à demander cette semaine, c'est ça. On avait aussi confié ce parcours à Jean-Paul II. Ben, vous savez, n'ayez pas peur, ça fait toujours penser à lui, puisque c'est la première chose qu'il avait dit du haut de la fenêtre, là, à Saint-Pierre de Rome, le jour de son où il apparaissait à la fenêtre de Rome pour la première fois. « N'ayez pas peur, le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul le sait. » Alors confions-lui cette semaine, essayons de vivre une semaine en n'étant pas trop anxieux. Et bonne discussion.